Le quart d'heure ciné sur RCN.
Margot Gross.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez le quart d'heure ciné, votre émission consacrée aux sorties de films chaque mardi à 17h. Et aujourd'hui, on se retrouve à l'occasion de l'avant-première du film La Promesse Verte, projeté à l'UGC de Ludre. Et nous sommes en compagnie du réalisateur Édouard Bergeon, mais aussi de l'acteur Félix Moati. Édouard, Félix, bonjour. Alors pour commencer, Édouard, que raconte ce film ?
Ce film raconte exactement ce pourquoi les agriculteurs sont en colère aujourd'hui. N'importons pas du monde, ce qui est fait d'une manière complètement différente avec des modes de fabrication qui ne respectent pas du tout les mêmes normes que nous au niveau social, environnemental. Ça pourrait être du poulet, ça pourrait être vraiment tout ce qu'on importe, du porc. Et en fait, là, c'est d'huile de palme. Mais ça naît vraiment d'une histoire agricole dans la lignée, dans le sillon de nom de la terre. Après, il fallait en faire un scénario et il fallait raconter l'histoire de personnages. Donc le combat d'une maman... et qui va tout faire pour libérer son fils qui est emprisonné à l'autre bout du monde, Martin, mon ami Félix Moati qui est avec moi là.
Ici présent.
Alors c'est une fiction, mais c'est vrai que je ne suis pas inspiré, souvent on me demande si est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie. Non, il n'y a pas une histoire vraie sur le personnage de Carole ou de Martin. En revanche, quand on lit et quand on se documente, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'activistes qui défendent l'environnement, qui malheureusement peuvent avoir des destins comme celui de Martin. Et ensuite, donc, pour écrire le scénario, je me suis nourri de beaucoup de lectures, comme vous. Hein. J'ai un ADN de journaliste à la base, j'ai lu des bouquins, et puis on nourrit un scénario, mais comme on le fait généralement, mais... Après, moi, je viens de ce domaine-là, donc j'ai besoin de crédibilité. Et peut-être que c'est un cinéma du réel que je fais comme Au nom de la Terre, comme celui-ci. Et c'est important pour moi que ce film soit crédible, qu'on y croit et que qu'il y ait de l'émotion et que quand on sorte de la salle, on soit un peu bouleversé. Tout a été tourné en Thaïlande parce que la Thaïlande est un pays de producteurs d'huile de palme. Leur économie principale, c'est le tourisme, mais il y a des décors qu'on a loués en Thaïlande. C'est palmeraie, c'est une usine de palme. On s'est baladé vraiment dans le sud de la Thaïlande au milieu de ces océans de palmiers. Ça, c'est la forêt indonésienne, pour le coup, qu'on a fait lors des repérages, comme notre ami, notre cousin commun, Laurent Houtan, que j'ai eu la chance de filmer, d'avoir trouvé en se baladant sur une pirogue pendant 3 heures, et là, hop, ça bougeait, et il était en train de manger de l'eucalyptus, comme quelques plans de Jakarta également en drone, comme quelques plans de la déforestation également. Mais sinon, tout le reste, il y a eu quelques plans indonésiens qui ont été faits lors des repérages, et ensuite... Et après, tout le reste, c'est en Thaïlande, parce que c'est l'Asie du Sud-Est, ça se ressemble beaucoup. Puis on fait du cinéma, donc on crée des décors, on sait ce qu'on va filmer, pas filmer. Des fois, c'est la magie du cinéma, des fois on se retourne derrière un plan, on se dit « Ah !» C'est quand même assez étonnant. Ça permet d'incarner la forêt, ça permet de... On a souvent cette image, on parle souvent des orang-outans avec la déforestation, ben là, c'est important de voir que dans un de ses habitants, en plus de ces arbres majestueux dont on n'arrivait même pas à voir la cime.
Est-ce qu'on parle assez de l'écologie, du milieu agricole dans le cinéma pour vous ?
Il y a eu pas mal de films qui ont parlé du monde agricole, comme Petit Paysan et comme d'autres, donc j'ai fait moi Au nom de la Terre. Après, on n'est peut-être pas beaucoup dans le milieu du cinéma à venir du monde agricole, mais je ne ferai peut-être pas que ça toute ma vie. Mais en tout cas, je connais le monde agricole, j'en viens et j'essaie de le porter aujourd'hui sur les écrans, dans les documentaires que je fais aujourd'hui dans le même film de cinéma. Mais voilà, je suis fermé à aucun autre genre.
Comme tous les jeunes gens de ma génération, c'est-à-dire que la thématique écologique est évidemment incontournable. Et c'est vrai que pour le film et ensuite après coup maintenant, je me forme par exemple auprès de Camille Etienne, qui est une jeune activiste très active sur les réseaux sociaux notamment, et qui participe beaucoup, je trouve, à une sorte d'éveil des consciences, avec beaucoup de pédagogie en plus. Quand je parle avec elle de la déforestation, elle est très claire, elle a un discours très précis, très concis, et c'est assez passionnant. Elle m'a d'ailleurs dit cette statistique affolante, à savoir qu'il y avait un activiste écolo tous les 2 jours qui se faisait tuer dans le monde, et notamment des activistes autochtones, comme mon personnage par exemple dans La Promesse Verte côtoie la communauté Dayak. Il y a pas mal d'activistes Dayak qui disparaissent comme ça et dont personne ne retrouve la trace. Voilà, donc ce film met en lumière aussi ça, et comme le dit Édouard, c'est que c'est un problème qui est national en fait. On a l'impression que c'est à des kilomètres et des kilomètres de chez nous, mais en fait les répercussions, elles sont chez nous et dans notre assiette. Et donc ça, c'est assez passionnant en fait, de voir comme tout est interconnecté dans notre monde. En fait, j'ai beaucoup laissé faire l'environnement dans lequel j'évoluais. C'est-à-dire que pour le tournage en prison, par exemple, En fait, moi, j'aime beaucoup me laisser imprégner par les décors. J'aime beaucoup ça. J'arrive en prison, il y a la moiteur, il y a la chaleur de la Thaïlande, puisque le film se passe en Indonésie, mais on a tourné à Bangkok et dans le sud de la Thaïlande. Je me laisse faire par ça. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire, moi, je viens d'une ville, je viens de Paris, mais quand on a tourné, par exemple, sur une barque, sur un fleuve, là, j'avais un moment de sérénité et de plénitude qui sont des sentiments qui sont assez rares, en fait, à ce point-là, à ce niveau-là. Donc, je me laisse faire par les décors. J'ai kiffé totalement, ouais. Alors que je rôtissais au soleil à 50 degrés, mais j'ai pris mon pied. Et en fait, il y a vraiment laisser faire l'environnement, laisser faire le décor, laisser faire l'endroit où on est, et que ça infuse. Je trouvais que Martin, il avait ce côté-là. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des environnements étrangers. Voilà. C'est même, il va chercher ça.
C'est un baroudeur.
C'est un baroudeur, ouais.
Moi, dans mon travail, j'ai toujours un fond d'information et en fait, en écrivant, on cherche à écrire des séquences dans ce travail d'écriture. Ça a été très long, on a mis 3 ans à écrire ce scénario. Mais oui, j'avais envie de raconter. Je me suis baladé pas mal quand j'étais reporter en Amérique du Sud. J'ai vu les ravages de la déforestation, en Asie du Sud-Est également. Et puis, tout l'univers du lobbying et de la diplomatie m'intéressait aussi, parce que je suis allé dans pas mal d'ambassades pour d'autres documentaires en Afrique. Et en fait, je voulais mettre un petit peu tout ça dedans, et puis ça se passe relativement comme c'est décrypté dans le film. Donc, cette maman, elle rentre dans une lessiveuse, et à chaque nouveau rendez-vous, elle sait jamais vraiment qui elle rencontre. Est-ce qu'il va l'aider, pas l'aider, quel pouvoir il a? Et ça commence avec son arrivée à Jakarta, avec le personnage de Saïd, joué par Sofiane Kames, qui est un attaché de l'ambassade, et voilà, qui est assez trouble, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours intéressant quand un personnage est vraiment assez ambivalent. En Indonésie, elle vend sa voiture, comme Madame Tout-le-Monde, comme Monsieur Tout-le-Monde. Donc justement, il y a plein d'éléments dans le scénario qui nous ramènent aux spectateurs et spectatrices qui seront dans la salle, en fait.
Et, et l'amour maternel n'a pas de frontières, pour le coup. C'est-à-dire qu'Alexandra Lamy, qui veut se battre pour... une mère qui veut se battre pour libérer son fils, injustement condamné à mort, elle peut être française, indonésienne, malaisienne, tunisienne... slovène, ce sera...
Que du haine.
Oui, que du haine. Voilà. Alors qu'il n'y a que de l'amour. Mais eh bien, une mère est une mère qui veut sauver son fils. Et un fils injustement prisonné, quel que soit le passeport, est un fils injustement prisonné. J'espère, j'ose croire que les gens peuvent s'identifier, même quand ça sort de leurs frontières. Sinon, ça nous promet un avenir assez pauvre. En tout cas, on a affaire à plus puissant que nous. Et à plus vicieux que nous. À savoir des lobbies, des gouvernements... voilà, le personnage de Martin que je joue et le personnage de Carole d'Alexandra Lamy, ce sont des personnages dépassés par des forces qui les dépassent. Ouais.
Après, les combats d'activistes comme celui de Nila dans le film ne sont pas vains. En France, le Conseil d'État a interdit aujourd'hui l'usage d'huile de palme dans la raffinerie de la Med dans les biocarburants. Donc on voit que de toute façon, les combats ne sont pas vains, il faut les mener. Et c'est pour ça qu'à la fin du film, Martin, on pense qu'il va continuer. Et cette personnage est l'activiste, elle est toujours là, vaillante, sans révéler la fin. Et en tout cas, pour moi, je reste quelqu'un d'optimiste. Et voilà. Pour moi, il y a de l'espoir, en fait. En tout cas, dans les remarques et dans les retours qu'on a après une trentaine de cinéma en avant-première, il y a forcément toujours des gens un peu plus pessimistes que d'autres, mais il y a quand même beaucoup d'espoir. Et c'est ça qui est essentiel. On raconte toujours une histoire, que ce soit dans le documentaire, dans la fiction. Après, ce n'est pas les mêmes temps. C'est beaucoup plus long, le cinéma. Ce n'est pas les mêmes moyens. On cherche des décors dans le cinéma. Et puis qu'on va mettre des personnages, des acteurs dans un décor. Dans le documentaire, on va aller filmer le réel. C'est juste une histoire de moyens. Je l'ai fait, que ce soit les deux genres, je l'ai fait avec la même passion, ambition. Et je l'ai fait pas tout seul. On est des équipes à chaque fois. J'avais une équipe autour de moi de Français qui est venue en Thaïlande. Et puis ensuite, il y avait une équipe de Thaïlandais qui nous ont aidés. On était 120 tous les jours, plus les comédiens, plus les figurants. Donc, on est une grosse équipe. On était même une famille là-bas. Et c'est intéressant de partir au bout du monde. On vit ensemble et on rit ensemble, on s'engueule ensemble. C'était Commande de la Terre, j'étais déjà en scope, là c'est à nouveau en scope, j'aime filmer les paysages, j'ai été nourri par le western que me faisait mon père quand j'étais gamin, j'ai grandi à la campagne, j'ai besoin de filmer cette nature comme ça. Puis après,
de ton cinéma en règle générale, c'est de filmer les paysages, c'est de la terre en fait, la puissance la puissance de la forêt primaire indonésienne ou, dans Au nom de la terre, la puissance aussi de la terre agricole, quoi.
Et puis ensuite, avec beaucoup de longues focales, rentrer aussi dans la tête des personnages, de Martin, de Carole, et d'être proche d'eux. Et c'est ça qui m'intéresse. Ouais.
Et justement, ces plans de palmiers. Est-ce que vous avez pu rencontrer, échanger avec la population locale sur le tournage en Thaïlande ?
Ah, bien sûr, parce que les scènes, par exemple, la scène où Martin est. Les scènes où il est dans le village, la scène où justement le chef de la sécurité de Palmyre, la compagnie, vient les menacer, on est avec des villageois thaïlandais qui jouent leur propre rôle, mais de paysans indonésiens. Donc d'ailleurs, ça nous a valu un tournage de séquence assez épique, parce qu'il fait nuit très tôt, à 18h, et qu'on n'avait pas commencé avant 16h cette séquence où tu filmais justement l'arrivée de Rudy qui venait menacer. On s'en est sorti, mais c'est. Vous imaginez, on arrive avec nos moyens, ils n'ont jamais vu forcément une grosse caméra, et puis voilà, quand on explique bien, et puis que tout le monde fait bien son travail, finalement, on arrive à faire du cinéma.
Ces conditions de tournage, alors sous 50 degrés, comment vous l'avez vécu ? Est-ce que c'était, j'imagine, particulièrement difficile ?
Les conditions ne sont jamais, enfin pour les acteurs en tout cas, on est toujours très protégés quand même, donc voilà, on ne peut pas se plaindre de quoi que ce soit. Mais après oui, en effet, enfin c'est la moi je me souviens de la moiteur de la pollution, je me souviens de à Bangkok quand on est à Bangkok, et je me souviens des 50 degrés en effet, et
tous les jours des difficultés. Mais c'est la vie d'un tournage, hein, que ce soit en France ou à l'autre bout du monde. Forcément à l'autre bout du monde, et on a pas vraiment de backup, on doit rentrer ce qui est prévu dans la journée. Après, c'est arrivé un matin qu'il y a eu une chute sur une mobilette dans les Palmeraies qui bouscule toute la journée de tournage et la manière de filmer, la réalisation que j'avais prévue. Puis finalement, la séquence est mieux, ouais. Mais on s'est débrouillé autrement, une autre journée pour... dans un pick-up. Mais oui, il y a des moments où on a des sueurs froides, hein, mais on écrit au scénario, on écrit lors du tournage avec les comédiens, et après on réécrit au montage, et voilà, on s'en sort à peu près toujours.
La musique, elle a été faite avec des instruments locaux. Pourquoi ça vous tenait à cœur ? Est-ce que ça vous tenait à cœur ?
Je travaille avec Thomas D'Apello, le compositeur, depuis une quinzaine d'années. Je fais mon deuxième long métrage avec lui. Et c'est un musicien extraordinaire qui a voulu lui-même m'a proposé de se perfectionner dans les gamelans, donc ses percussions indonésiennes. Et bien sûr, et ça donne tout un... Pareil, toujours pareil, dans la crédibilité et dans l'atmosphère, en fait. Ça crée quelque chose. Et c'est un film où il y a beaucoup de musique. Il y a 1h20 de musique sur 2h. Et on la sent ou la sent pas, mais en tout cas, elle est toujours là, elle accompagne, elle met sous tension. Je pense que vous l'avez été sous tension tout de suite, dès les premières scènes avec Martin.
C'est ce qui m'avait marqué beaucoup quand j'ai vu le film la première fois, c'est ce que Edouard a construit d'atmosphère, en fait. On arrive dans une atmosphère comme ça qui tout de suite nous happe et nous met en apnée pendant tout le film et rajoute à cette inquiétude qui est diffuse pendant tout le film de comment on va s'en sortir, en fait, et comment ce jeune Martin emprisonné va ressortir ou non vivant de cette prison.
Avec Luc, qui est co-auteur et monteur du film, dès le tournage, on se disait que c'était un film qui avait un genre assez singulier, en fait. Mmh. On ne pourrait pas dire OVNI, parce qu'OVNI, ça peut être péjoratif, mais voilà, c'est ni vraiment un thriller à bloc, ça reste le combat d'une maman et qui va voyager pour aller sauver son fils, qui voyage aussi. Et je pense que le public, le spectateur, fait ce voyage et est complètement en immersion et en ressort plein d'émotions. Et c'est ce que procure le cinéma, et c'est plutôt cool. Bah tant mieux si on surprend, il y a pas mal de surprises alors dans le film, il va falloir aller le voir. Hein.
Oui, c'est sûr.
Merci à vous,
merci à tous.
Merci à tous.
Merci beaucoup Edouard et Félix de nous avoir accordé cette interview. Merci à toute l'équipe du film La Promesse Verte, on le rappelle, qui sort en salle le 27 mars. Vous pourrez le découvrir sur le grand écran. Merci aussi à l'équipe UGC qui nous permet de faire ces belles interviews. Et bien sûr, merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés. Rendez-vous mardi prochain à 17h pour la prochaine émission.